Faire le bien à autrui, c'était la vocation du Bouddha. Tous les événements de la vie du Bouddha, depuis sa naissance comme prince Siddhartha jusqu'à sa victoire sur Mara sous l'arbre Bodhi, tels que nous les avons relatés dans les sections précédentes, étaient orientés vers un seul but, l'aptitude à aider les autres à se libérer eux-mêmes de la souffrance. Maintenant qu'il avait obtenu l'éveil, et donc la sagesse et la compassion illimitées et la possibilité d'aider au maximum les autres, il était prêt à commencer sa carrière d'être éveillé. Mais le monde était-il prêt pour lui? Pendant 7 semaines, le Bouddha Shakyamuni, l'ancien Siddhartha Gautama qui avait reçu l'éveil, resta dans le voisinage de l'arbre Bodhi, absorbé dans la conscience illimitée dont seuls les êtres complètement éveillés jouissent. Selon les récits traditionnels, le Bouddha pensait que, comme personne d'autre ne fournirait probablement l'effort extraordinaire nécessaire pour parvenir au but qu'il avait atteint, la meilleure des choses qu'il puisse faire serait de profiter lui-même des fruits de l'éveil. Comme si cela avait été pour répondre à sa pensée non exprimée, les dieux du ciel apparurent devant Shakyamuni et, au nom du monde entier, ils le prièrent de changer d'avis. Bien qu'il soit vrai que les esprits des êtres sont obscurcis, les couches qui recouvrent certains esprits sont moins épaisses que celles qui en recouvrent d'autres. Sans aucun doute, il s'agit des êtres qui peuvent bénéficier de vos réalisations. Pour eux, s'il vous plaît, enseignez ce que vous avez appris. Le Bouddha accepta immédiatement. N'oubliez pas. Shakyamuni avait toujours eu l'intention de partager avec d'autres tout ce qu'il découvrirait. Plein de compassion dès le départ, sa motivation complète avait été de faire le bien aux autres de toutes les manières possibles. Son apparente hésitation à enseigner n'était qu'un stratagème. Il savait en effet parfaitement que pour un Bouddha, il n'est ni correct ni bénéfique de dispenser son enseignement à ceux qui n'expriment pas de leur propre chef un intérêt sincère pour l'atteinte de la liberté spirituelle. Sans la motivation pour apprendre ni la volonté de changer de la part du disciple, l'enseignement le plus puissant sera inefficace. C'est pour cette raison, aujourd'hui encore, que la plupart des bouddhistes s'abstiennent d'enseigner à moins que d'autres personnes ne leur demandent. Dans certaines traditions, les disciples doivent même formuler 3 fois de telles requêtes avant que l'instructeur ne décide de dispenser son enseignement. Lorsque le Bouddha réfléchit aux individus qui seraient prêts à recevoir son enseignement initial, il pensa d'abord aux 2 instructeurs de méditation auprès desquels il avait étudié, mais il réalisa qu'ils étaient déjà morts. Il choisit donc pour premier auditoire ses 5 anciens compagnons d'ascétisme qui poursuivaient sans lui leur pratique très austère à Sarnath, qui s'appelait alors Isipatana, près de la ville sainte de Bénarès.
L'arbre Bodhi aujourd'hui. Il est aujourd'hui encore possible de se rendre à Bodh Gaya, dans le nord-est de l'Inde, pour y voir l'arbre Bodhi, qui pousse à l'endroit où Siddhartha obtint l'éveil il y a 2500 ans. Ce n'est pas le même arbre, mais c'est un descendant direct de celui d'origine. Quelques centaines d'années après la mort du Bouddha, durant le règne d'Ashoka, dont vous écouterez les exploits au chapitre 4, le bouddhisme s'étendit au Sri Lanka, Ceylan à l'époque. Une bouture de l'arbre Bodhi fut plantée sur l'île et devint le centre d'un célèbre lieu de pèlerinage bouddhiste. Des siècles plus tard, lorsque l'arbre d'origine de Bodh Gaya fut détruit, une bouture de l'arbre Bodhi de Ceylan fut apportée en Inde et plantée sur le site d'origine. Cet arbre tomba durant des travaux de restauration commencés en 1877, mais un jeune arbre qui en provenait fut planté à sa place. C'est l'arbre qui s'y trouve encore aujourd'hui.
Les 5 à 7 se trouvaient dans le parc des gazelles à Sarnath lorsqu'ils virent le Bouddha s'approcher. Croyant encore qu'il avait abandonné sa quête spirituelle, ils décidèrent de ne pas bien accueillir le déserteur. Mais ils ne purent s'empêcher de remarquer, même à distance, qu'un profond changement l'avait affecté. Il irradiait une telle assurance pacifique et une telle bienveillance qu'ils durent le saluer avec un grand respect et lui proposèrent une place d'honneur parmi eux. Puis, en réponse à leur requête, ils lui demandèrent de leur révéler ses propres expériences. Il prononça son premier discours en tant qu'être éveillé, en tant que Bouddha. Ce premier discours est souvent appelé le sermon de Bénarès. N'oubliez pas. De toutes les activités d'un Bouddha, le fait de tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire de dispenser un enseignement spirituel, est celle qui est prioritaire, parce qu'un être éveillé a une action bénéfique maximale pour les autres lorsqu'il donne une instruction spirituelle. Comme Shakyamuni le souligna lui-même plus tard, un Bouddha ne peut retirer la souffrance de la vie d'une autre personne de la même manière qu'on peut retirer l'épine du pied de quelqu'un d'autre. S'il le pouvait, tous les problèmes de chacun auraient déjà disparu. Le Bouddha compatissant les aurait sans doute tous supprimés maintenant. En revanche, ce qu'un Bouddha peut faire pour les autres, et ce de façon inégalée, c'est leur révéler le sentier des manières qui sont les mieux adaptées à la personnalité de chacun. Toutes les instructions dispensées par un Bouddha ne sont pas verbales. Un Bouddha procure de l'inspiration intellectuelle et dispense de l'instruction par sa seule présence, et il peut faire passer de grands messages par des gestes silencieux. Écoutez l'histoire célèbre de l'origine du bouddhisme zen au chapitre 5. Mais durant sa vie, le Bouddha Shakyamuni donna de nombreux discours formels, dont le premier fut celui du parc des gazelles à Sarnath. Le sujet de ce sermon était celui des quatre nobles vérités, un thème qu'il développa et qu'il perfectionna au cours des innombrables discours durant les 45 années suivantes. Écoutez la section « Comprenez les quatre nobles vérités » plus loin dans ce chapitre. Comme le Bouddha l'avait prédit, ses cinq anciens compagnons étaient particulièrement mûrs pour l'instruction spirituelle. Il suffit au Bouddha de quelques mots seulement pour leur donner une compréhension profonde de son enseignement. Ils abandonnèrent toutes les activités qui, selon le Bouddha, étaient nuisibles au bien-être des autres et à leur propre progrès spirituel, se firent ordonner moines et devinrent les premiers membres du Sangha, la communauté spirituelle bouddhiste. Tandis que de plus en plus de personnes étaient inspirées par la sagesse et par la compassion du Bouddha et profitaient de son enseignement, le Sangha s'agrandit de plus en plus. Cette croissance attira l'attention et suscita aussi souvent la jalousie. D'autres instructeurs bien établis, qui, avec leurs propres disciples, vinrent rendre visite au Bouddha pour le mettre au défi. Reconnaissant ensuite que le Bouddha était un maître parfaitement éveillé, de nombreux instructeurs rivaux et leurs disciples devinrent les disciples du Bouddha. Le Sangha s'accroissait à pas de géant pour compter finalement des dizaines de milliers de fidèles. N'oubliez pas. À de nombreux égards, cette communauté du Sangha était assez révolutionnaire. Le Bouddha accepta des disciples de toutes les castes de la société et il les traita avec la même préoccupation et avec le même respect. Ce comportement allait à l'encontre de la séparation entre supérieur et inférieur, entretenue par le rigide système des castes hindoues auquel le Bouddha s'en prenait souvent dans ses prêches. Son acceptation des femmes en tant que disciples et sa conviction que celles-ci étaient autant capables que les hommes d'atteindre le développement spirituel était tout aussi inhabituelle, étant donné la domination de la société par les hommes à l'époque. Sachant que les éléments les plus conservateurs de la société indienne auraient de grandes difficultés à accepter un sangha incluant des femmes, le Bouddha hésita assez longtemps avant d'accepter dans ses ordres la moindre de ses disciples femmes. Mais finalement, il créa un ordre de nonnes dont la tante qu'il avait élevée après la mort de sa mère devint la première moniale. Outre le nombre croissant de moines et de nonnes, de nombreux laïcs devinrent aussi les disciples du Bouddha Shakyamuni. L'un de ces laïcs était le roi Bimbisara de Magadha. Le monarque qui avait proposé au Bouddha de partager son royaume avec le prince Siddhartha avant le début de son ascèse de 6 ans. Lorsque le roi devint disciple et protecteur du Bouddha, un grand nombre de ses sujets firent de même et le nombre de membres du Sangha s'accrut donc substantiellement. Écoutez le chapitre 4 pour en apprendre davantage sur la communauté bouddhiste en Inde. Finalement, le Bouddha retourna à Kapilavastu, où il avait grandi, et où vivaient encore de nombreux membres de sa famille et de son clan. Nombre d'entre eux devinrent ses disciples, y compris son fils, Rahula, qui reçut l'ordination et devint moine. Son père, qui avait voulu que le prince Siddhartha gouverne le royaume, devint aussi l'un des disciples, bien que sa fierté d'être connu comme le père du Bouddha ait un peu gêné ses progrès sur le plan spirituel. Devadatta, cousin du Bouddha et rival de toujours, rejoignit aussi la communauté. Mais jaloux de la popularité du Bouddha, il se posa lui aussi en instructeur, ce qui causa un schisme dans le Sangha. Pour en savoir davantage sur les autres événements significatifs dans la vie du Bouddha et de sa carrière d'enseignant, écoutez le chapitre 9, dans lequel nous décrivons les principaux lieux de pèlerinage bouddhiste. Finalement, âgé de 80 ans, après une vie de service, d'abnégation et de compassion envers les autres, Shakyamuni décida qu'il avait aidé tous ceux qu'il pouvait aider. De même qu'il avait montré aux autres comment vivre en toute sincérité avec l'esprit en paix, il allait maintenant leur montrer comment mourir de la même façon. Il dit alors à Ananda, son fidèle disciple, qu'il voulait retourner à l'endroit de sa naissance pour le moment final. Sur leur chemin, Shakyamuni et Ananda s'arrêtèrent au village de Kushinagara, où le Bouddha annonça que ce serait le lieu de son dernier soupir. Choisissant un endroit entre deux grands arbres, il s'allongea sur le côté droit, dans la posture qu'on appelle parfois la posture du lion, et se prépara à passer de vie à trépas. Pourtant, même au cours du dernier jour de sa vie, le Bouddha continua à aider les autres en répondant aux questions d'un vieil homme du nom de Subhadda pour écarter ses doutes au sujet de son enseignement. Finalement, entouré de nombreux disciples et habitants des villages environnants, le Bouddha prononça ses dernières paroles, rappelant à tous les vérités essentielles qu'il avait enseignées durant sa vie. Toutes les choses conditionnées sont provisoires. Pratiquez avec assiduité pour obtenir votre propre salut. En traversant des états méditatifs de plus en plus profonds, le Bouddha s'éteignit calmement le jour anniversaire de son éveil, qui s'était produit 45 années plus tôt. Nombre de ses disciples furent submergés de chagrin. Pourtant, certains, ceux qui avaient bien compris son enseignement, demeurèrent en paix. Ses disciples incinérèrent sa dépouille. Écoutez le chapitre 9 pour davantage de détails. Et ils placèrent ses cendres à l'intérieur de monuments funéraires, les stupas, situés à travers toutes les terres qu'il avait bénies de sa présence.